David Torchala.
Et bonsoir, bienvenue dans L'Heure de Pointe, le magazine de société sur Radio Présence. Je suis en compagnie de nos deux chroniqueuses, Anne Deslois. Bonsoir Anne.
Bonsoir David, bonsoir à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur l'antenne.
Mais nous aussi, on sait que vous avez un grand cœur puisque vous êtes bénévole dans la solidarité internationale. Et on va parler d'internationalité particulièrement ce soir. Et puis, nous sommes aussi avec Delphine Pereira. Ça va Delphine ?
J'ai un moins grand cœur, mais je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui.
Mais qu'est-ce que c'est que ce complexe ? Delphine Pereira, vous êtes journaliste pour La Nouvelle République des Pyrénées, le groupe La Dépêche du Midi. Et oui, on va quand même parler de cœur, de grand cœur, puisque ce soir, eh bien, nous accueillons des membres du pèlerinage militaire international de Lourdes. Nos deux invités sont le père Jean-Marc Fournier. Bonsoir.
Bonsoir à vous.
Vous êtes même chanoine, voilà, premier doyen du chapitre cathédrale du diocèse aux armées. Vous dirigez le pèlerinage militaire international. On va en parler, vous allez nous faire découvrir ce grand rendez-vous annuel à Lourdes. Et puis notre deuxième invité, c'est vous, Eflam Kawissin.
Voilà, c'est ça.
Bienvenue Eflam. Voilà, vous êtes vous également militaire, vous êtes le chef de délégation France. Vous accueillez aussi, parce que les Français sont nombreux aussi dans ce pèlerinage militaire international, vous allez pouvoir nous en parler. Puis vous êtes également l'auteur de la bande dessinée L'histoire du pèlerinage militaire international. Voilà, une nouveauté. Alors, d'abord, peut-être une première question à vous, père Jean-Marc Fournier. Là, nous sommes dans les studios, donc on n'entend pas trop, mais dans les rues de Lourdes, il y a du bruit. 15 000 militaires sont présents. Qu'est-ce que vous vivez ?
Alors, on vit un moment un peu singulier, vous l'imaginez bien, puisque nous avons tous présent encore à l'esprit la période miséreuse où nous étions confinés chez nous. Et la grande difficulté pour chacun des organisateurs de pèlerinage, et à vrai dire pour le tout à chacun, était de savoir ce qui allait se produire après cet épisode de Covid et des confinements. Et nous avions atteint une belle assistance. On était dans l'ordre de 13, 14 000 juste avant le Covid. Et à la sortie du Covid, on a eu cette intuition de maintenir le flambeau de nos grands anciens, à savoir la prière pour la paix, et de réunir toujours des militaires de différents pays sur la base de la bonne volonté, et de pouvoir, sous le format d'un web PMI, de réunir avec l'autorisation préfectorale 500 pèlerins, ce que nous avons fait, et avec l'appui des sanctuaires, qu'on remercie encore, de pouvoir diffuser très largement. Et bien de ces 14 000, qui était un peu une sorte de plafond de verre, on ne va pas se le cacher, puisque depuis la disparition du service national, enfin en tout cas son arrêt en France, nous n'avons plus d'appelés, c'est sur la base du volontariat, et on sait que le rythme des armées françaises fait que les projections nombreuses, le rythme d'entraînement fait que... quand il y a un peu de temps, c'est un peu aussi pour vivre avec sa famille et pas forcément pour venir à Lourdes. Donc ce plafond de verre, de manière très étonnante, a été atteint d'abord dès l'année dernière. On a même un peu dépassé. Et là, très très belle surprise, on va encore au-delà, puisque vous avez évoqué le chiffre de 15 000. Et avec la grâce de Dieu, on espère être encore beaucoup plus nombreux l'année prochaine.
Et vous avez parlé du web PMI. Ça, c'est vrai que c'était assez unique. Revenons un petit peu en arrière, là, pendant ces années Covid. Ça consistait à quoi, en fait, un web? Alors, pardon, on dit PMI, ça va être le nom de code, hein, pendant l'émission. PMI, c'est Pèlerinage Militaire International. Un pèlerinage sur le web, c'est possible, ça?
Alors, c'est tout à fait possible, puisque nous l'avons fait. C'est la première réponse que je vous donnerai, qui est de l'ordre de l'évidence. Vous savez que le critère ultime de la vérité, c'est l'évidence. On ne peut pas le prouver, puisque c'est devant nous. Et nos sens, contrairement à ce que d'aucuns essaient de nous faire croire, ne nous trompent pas. Voilà, l'intellect agent, capacité d'apprécier les choses. Oui, le web PMI, c'est possible, parce que derrière tout ça, n'oublions pas, il y a la théologie catholique qui est la communion des saints. Et donc, ces trois grandes composantes de l'Église, celle du ciel, celle du purgatoire et celle sur terre, l'Église militante, eh bien, nous pouvons tous prier les uns pour les autres, et c'était un peu l'idée. Et en même temps, nous sommes au XXIe siècle, avec des générations, ça s'adresse, le cœur de cible, c'est quand même 25-35 ans, vous l'avez bien compris, ce sont des jeunes militaires humanitaire. Et donc, eux sont toute la journée, souvent la nuit, même aussi sur les réseaux sociaux avec leur portable. Et donc, ça permettait d'allier l'utile à l'agréable, à savoir les technologies modernes et en plus s'inscrire dans la grande tradition de l'Église, la foi théologique et puis l'habitude du pèlerinage qui, je pense, nous le reviendrons, est tout à fait le sujet qui nous réunit aujourd'hui puisque nous sommes dans le troisième volet dans la thématique de cette invitation faite par Bernadette aux prêtres d'abord et puis après au peuple de Dieu.
Oui, vous évoquez le thème pastoral que propose le sanctuaire de Lourdes en reprenant cette phrase, longue phrase de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous que allait dire aux prêtres que l'on bâtisse ici une chapelle et qu'on y vienne en procession. Donc voilà, 2021, les pèlerinages ont approfondi le thème d'aller dire aux prêtres et l'année dernière que l'on bâtisse ici une chapelle. Cette année, ce sera l'année des processions. Eflam, vous qui êtes dans l'organisation France, est-ce que ça a du sens de venir ici en procession à Lourdes ?
Évidemment, quand on voit des militaires de toute nation, de tout pays confondu, venir au-delà des différences, au-delà des uniformes, et poser un geste de prière, de compassion au pied de la Vierge Marie pour la paix, prier pour la paix, c'est extraordinaire. Cette idée de procession, à l'invitation de la Vierge Marie, prend totalement du sens par rapport à ça.
Delphine Pereira.
Oui. Alors moi, je voulais savoir combien de délégations y avait-il, combien de pays sont présents sur ce PMI 2024.
Alors on a pour habitude de vous dire il y a une quarantaine de pays, mais on va affiner un peu les chiffres puisque vous êtes, nous sommes là en esprit en vérité. Cette année nous aurons deux délégations représentées. Une délégation, il faut savoir que c'est pas simplement un chef de délégation ou un attaché de défense, mais c'est véritablement au moins 12 personnes qui l'entourent et on est sur 31 pays représentés. Mais entre 12 personnes et la délégation la plus nombreuse, qui est la délégation française, et je pense que l'aumônier Caoussin pourra vous donner des chiffres plus affinés que les miens, mais on est de l'ordre quasiment des 6 000 pèlerins. Voyez, il y a un delta qui est d'importance. Pour préciser encore ma réponse, dans les gros contributeurs cette année, donc la France, nous l'avons évoqué, vient ensuite la Croatie, qui dépasse le millier de participants. L'Italie, où ils sont 3 200 de mémoire. Généralement, un officier de coordination qui tient à jour tous ces chiffres qui sont d'importance. Donc 3 200 à peu près ou 3 300 pour les Croates. L'Italie, 3 200. Les Italiens, je reprends mon chiffre, qui ont dépassé le millier. Et puis ensuite, on va avoir l'Allemagne, c'est les contributeurs un peu... Mais on se réjouit en même temps d'avoir nos amis du continent africain. On a des Ivoiriens, on a, nos amis aussi du Gabon, on a Madagascar, on a un certain nombre de nations, on va dire, qui sont peut-être moindres par le nombre, mais dans la symbolique qui manifeste justement l'universalité à la fois du message chrétien et du salut qui s'adresse à tous, et surtout la thématique de la paix.
Et justement, parmi les militaires qui font partie de la délégation française, certains sont en opération extérieure ou c'est tous des militaires qui sont ici en France ?
Alors, vous avez raison dans toutes les parties de votre proposition. Le militaire français, il est à la fois en opération, à la fois en entraînement, à la fois un peu chez lui, quand il reste un peu de temps, à la fois en opération intérieure, parce que quand vous dites opération, vous savez qu'il y a les opérations extérieures, les OPEX, puisqu'on a dit PMI, pèlerinage militaire international, donc OPEX, on aime beaucoup les acronymes. Puisqu'on est dans l'ordre de l'anecdotique, j'avais un de mes amis qui était lieutenant-colonel et qui s'était amusé à commencer à faire un dictionnaire des acronymes, qui s'était arrêté à 8500, vous voyez, donc là, je vous en sors. Le second, c'est donc les OPEX, opérations extérieures. Troisième acronyme, dans votre nouveau dictionnaire que vous n'allez pas manquer d'ouvrir, c'est les OPINT, les opérations intérieures. Et vous savez là que le grand enjeu qui va concerner et qui commence à concerner déjà depuis quelque temps à la fois les forces de sécurité, c'est-à-dire gendarmerie, police et puis les pompiers, mais aussi l'armée, c'est les Jeux Olympiques. Donc c'est une opération intérieure, ça consomme beaucoup de monde, pas simplement sur Paris, sur l'ensemble du territoire national. Et donc on peut dire que oui, les militaires, pour répondre à votre question, sont entre deux opérations, intérieur ou extérieur, entre deux entraînements, et prêt à, en mesure de, selon la décision de, du politique. Mmh. C'est les règles d'engagement, c'est le politique qui les décide.
On le voit pour la France, vous venez de le dire, mais le pèlerinage, il est international, et aujourd'hui, on est quand même dans un contexte international extrêmement tendu, où vraiment, on manque de paix. Est-ce qu'il est... Ça ne doit pas être aisé, finalement, de faire venir tant de militaires pour trouver un peu ce temps, est-ce que c'est une attente de leur part, comment en fait arrive-t-on à mobiliser autant de militaires d'autant de pays?
Eh bien, il y a d'abord le fait de partager l'humanité tous ensemble, parce qu'il n'y a pas étonnamment que des catholiques qui viennent. C'est de partager la même humanité, c'est de partager après le même baptême, là je vais citer saint Paul, et ensuite la même foi. Et tout ça fait beaucoup. Et effectivement, mais pas simplement les soubresauts internationaux. De tout temps, il y a la nécessité et la volonté de l'Église ecclésia, c'est la communauté, c'est le rassemblement de la communauté chrétienne. Hein, ce corps mystique dont le Christ est la tête et dont nous sommes les membres. Et on sait très bien que le propre pour être en bonne santé vaut mieux que les membres fonctionnent tous ensemble. Et donc c'est un plaisir pour une main de retrouver l'autre main, un pied de retrouver l'autre pied, ou que sais-je. Et donc là, c'est la théologie du corps de Saint Jean-Paul II. Hein, vous pouvez aller relire le merveilleux livre qui a été écrit sur la question. Donc voilà, il y a toujours eu cette... Et puis, il y a une dimension supplémentaire. Vous voyez, c'est pas simplement un pèlerinage comme les autres, comme on peut avoir le Frat, comme on a eu, par exemple, ou les pèlerinages aussi très beaux succès qui viennent de se terminer à Chartres, ou les pèlerinages, le pèlerinage de nos amis de Malte, de l'Ordre de Malte. Vous avez, entre militaires, et quel que soit le pays, une valeur en plus qui s'appelle la fraternité d'armes. C'est que pour beaucoup, nous nous sommes croisés, pas simplement à Lourdes, mais nous nous sommes croisés et nous avons même combattu dans des théâtres d'opérations extérieures. Moi, je vois, il y a de nombreux camarades avec qui j'étais en Afghanistan, par exemple. Et donc, vous imaginez bien que dans cette fraternité, il y a frater, il y a le frère, frère d'armes. C'est quelque chose qui veut dire beaucoup. Et c'est des événements qui ont été vécus, c'est quelquefois des difficultés ensemble qui ont été surmontées, et ça dit beaucoup. Et
c'est dans cette... vous êtes quelque part aussi dans l'esprit des fondateurs du pèlerinage, parce que dès les origines, c'était également ça, la volonté aussi de se retrouver entre frères d'armes.
On essaie d'affiner les données historiques. La première messe qui a été célébrée à Lourdes, de mémoire, c'est en décembre 1944, le 10 décembre 1944, mais enfin les historiens y ont regardé, par le cardinal Saliège. Et il y avait des FFI, il y avait de la résistance, il y avait même des soviétiques, figurez-vous, qui assistaient à cette messe pour montrer justement qu'il y a un absolu, l'absolu de l'homme, c'est effectivement de tendre vers la paix. Alors la paix selon le message que Dieu nous envoie dans la nuit de Noël, Gloria in excelsis Deo, voilà, il est venu apporter la paix et la paix qui est, rappelons-le, on se plaît à le dire, mais selon la définition de saint Augustin, la tranquillité de l'ordre. Et donc l'ordre, c'est l'ordre intérieur, la paisibilité de l'âme, le rapport entre intelligence et volonté, et puis c'est au-delà de soi-même, la paix intérieure, c'est la paix avec ce qui nous entoure, avec notre prochain, et dans ce beau champ de conversion qui voilà, avec les hommes de bonne volonté. Et donc effectivement, donc ça c'est 44, et on sait, premier pèlerinage, c'est vraiment 58, où là, sur la volonté... espèce de une sorte de moteur franco-allemand, parce que c'était quand même les deux premiers protagonistes principaux, s'appuyer sur ce moteur-là pour initier, mais pas que, pour initier justement de nouveau le cercle vertueux des hommes qui, ensemble, travaillent à l'édification du royaume de Dieu et, au contraire, qui ne luttent pas contre l'humanité.
Delphine Pereira.
Alors, à Lourdes, c'est un pèlerinage qui est attendu. Les gens adorent le PMI, je veux dire PMI, hein, parce que sinon ça fait trop long. Et c'est quelque chose qu'ils attendent tous les ans. D'ailleurs, ils étaient un petit peu déçus, c'est vrai, sur les années Covid, par le web. C'est pas tellement la même chose. Ils adorent voir les militaires défiler en ville, les rencontrer, parler, discuter, parce que c'est un petit peu ça aussi. Comment vous l'expliquez? Parce que par rapport aux autres pèlerinages, ce n'est pas tout à fait le même rapport avec les habitants ou même les touristes qui sont à Lourdes.
Alors, je ne sais pas si les habitants de Lourdes adorent, s'ils adorent, c'est de l'idolâtrie. Donc, ils aiment beaucoup, je veux le croire. On adore que Dieu, je me permets de le préciser. Non, vous aimez beaucoup, comme le chocolat.
Non, on adore. Le chocolat.
Voilà, donc, une fois mis de côté l'aspect idolâtre, je crois que là, vous évoquez deux choses. D'abord, le beau. Le beau peut être aussi un moyen de conversion. On le voit, c'est le drame parfois des liturgies où les gens sont habillés n'importe comment, ils font n'importe quoi. Ça n'attire pas vers le bon Dieu, définitivement. Le beau est un moyen de conversion. Et je ne parle pas simplement de la beauté physique des militaires qui sont souvent bodybuildés. Voilà, non, je parle de deux choses. D'abord, les uniformes, la chatoyance des uniformes. Et puis aussi, la beauté de l'âme. C'est-à-dire, c'est des gens quand même qui ont pour profession, et ce n'est pas commun, de mettre en péril, de rentrer dans ce que dit le Christ. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est quand même ceux qu'on fait profession de mourir à votre place pour que vous puissiez vivre très paisiblement et continuer votre vie loin des attentats, loin de que sais-je encore, avoir une stabilité. Donc ça ne laisse pas indifférent. Et puis, enfin, dernier élément que je donnerais, c'est que précisément, ça fait plaisir d'avoir enfin une jeunesse avec des convictions honnêtes et des valeurs enfin qui transcendent un peu la matérialité de ce qu'une sorte de société postmoderne essaie de nous faire accroire.
On va continuer à entrer un peu plus à l'intérieur de ce pèlerinage militaire international qui se vit actuellement tout ce week-end à Lourdes, dans le sanctuaire, mais pour le moment on marque une pause.
L'heure de pointe, David Torchala.
Eh bien, dans l'heure de pointe, aujourd'hui, avec Delphine Pereira de la Dépêche du Midi, ça va toujours Delphine, et aussi avec vous, Anne Deslois.
Ça va bien.
Ça va bien. Eh bien, écoutez, nous avons deux invités qui viennent du monde militaire et qui organisent ici, à Lourdes, le pèlerinage militaire international. Il s'agit du père Jean-Marc Fournier, ça va toujours?
Ben écoutez, on survit pour l'instant.
Bon, ben alors, si vous survivez, c'est très bien. Et puis, Eflam Kawissa aussi, voilà.
Ça va toujours.
Juste se redire, chaque mois de mai, l'évêque aux armées françaises réunit à Lourdes la grande famille militaire internationale, les sentinelles de la paix, comme aimait les appeler Jean-Paul II. Trois jours de pèlerinage pour les personnels du ministère des armées et de leurs familles, voilà, qui viennent se mettre à l'école de Sainte-Bernadette, voilà, sous le regard de Notre-Dame de Lourdes, pour vivre ce pèlerinage militaire, voilà, pour porter un message de miséricorde, de paix, et puis également pour accompagner les blessés. Dans la première partie, nous évoquions l'histoire du pèlerinage militaire international, mais avec vous, Eflam Kawissa, vous êtes chef de la délégation France, mais vous avez cette année une autre casquette, puisque déjà depuis de nombreux mois, peut-être année, nous le direz, vous travaillez sur des planches d'une bande dessinée. Cette fois-ci, vous êtes en studio avec nous. Cette bande dessinée s'appelle « L'histoire du pèlerinage militaire international ». C'est une certaine fierté que vous avez cette BD dans les mains.
Oui, c'est vrai. En fait, il y a quelques années, quand je suis devenu aumônier militaire, j'ai trouvé ce pèlerinage extraordinaire. J'ai découvert ça en même temps que j'ai amené mon groupe. Et en découvrant l'histoire de ce pèlerinage, au contact des différentes structures, je pense à l'équipe technique par exemple, mais pas que, je me suis dit qu'il fallait absolument raconter cette histoire et la transmettre aux générations à venir. Il y avait déjà eu deux livres de créer, mais qui n'étaient pas forcément accessibles tout public. Donc l'idée de mettre ça en BD est très vite arrivée, d'autant que durant le Web PMI évoqué par le père Fournier, j'avais envoyé une carte postale à tout le monde que j'avais demandé de dessiner, où il y avait les différentes nations. C'est cette carte postale qu'on voit en couverture.
Alors, donc décrivez donc, voilà. Cette couverture. On voit le sanctuaire au fond, la grande statue de la Vierge couronnée, et voilà. Entourée.
Et vous avez aussi bien des musiciens irlandais que des militaires français, que des militaires portugais, etc. Quand j'ai vu le résultat du dessinateur, je me suis dit bingo, on fait la BD. Et on s'était donné un an. Finalement, ça a demandé 3 ans. Beaucoup de travail de recherche. Et même avec le recul, je me dis, bah, j'ai découvert pas mal de petites fioretti, des anecdotes très intéressantes qui mériteraient d'être dans une édition augmentée. Mais déjà, l'idée de sortir cette odyssée historique en 44 pages est déjà quelque chose d'extraordinaire.
Alors, vous avez écrit, vous et votre co-auteur a dessiné ou vous êtes partagé le travail ?
On a travaillé ensemble sur le scénario. Donc, moi, je sais ce que je voulais déjà. Voilà. Mais lui a l'habitude. Moi, c'est la première fois que je travaille sur une BD de cette manière. Voilà. Donc, lui avait l'habitude puisqu'il a déjà publié des BD sur notamment Saint-Cyr, sur les troupes de marine. Il avait l'habitude des uniformes, l'habitude de la culture catholique et de la culture chrétienne de manière générale. Donc on a travaillé ensemble sur le scénario, et il a dessiné totalement la...
On la peut BD. Le citer, d'ailleurs.
René Leonzec.
Voilà.
Il est même aussi militaire.
Alors, il a fait son service militaire sur 2 années de mémoire. Mais il connaît très bien le monde militaire. Il a beaucoup étudié. Il fait partie des gens comme Yvon Bertorello ou bien d'autres, en fait, qui travaille sur les BD militaires.
Et on la trouve partout, cette BD, c'est actuellement
pour l'instant,
un petit point là-dessus ou pas?
Alors pour l'instant, c'est uniquement durant le pèlerinage militaire international à Lourdes, et par la suite les gens pourront le commander chez leur libraire sans aucun problème ou sur internet.
Alors donnons le nom de l'éditeur, c'est les éditions.
Les éditions Arguedour, qui veulent dire le veilleur en breton. C'est une structure associative qui travaille sur des œuvres d'évangélisation. Mais l'idée de ce nom, c'est un poète breton qui était dans les tranchées durant la guerre de 14. Le poète Jean-Pierre Calor, qui disait « Je suis le veilleur de l'aube, debout sur les tranchées, et je veille sur l'Occident, etc. » Et donc, et c'est en lien avec ce que disait Jean-Paul II, « Vous êtes les veilleurs de l'aube, les sentinelles de la paix. » Donc le nom vient de là.
Voilà. Et justement, vous disiez, actuellement, c'est en vente. Donc, pendant le pèlerinage militaire international, on va peut-être rappeler que, pour les auditeurs qui le souhaitent, demain samedi, à 15h, il y a une dédicace. Vous-même, vous allez pouvoir dédicacer, je crois, à la librairie de la Grotte.
Exactement. Hein?
Alors, tous les auditeurs qui souhaitent, puisque pour l'instant, on ne pourrait pas la trouver forcément dans d'autres librairies, peut-être par la suite sur le net, mais venez nombreux, surtout pour se faire dédicacer cette BD.
Exactement, ça se passe à 15h à la librairie de la Grotte, demain samedi.
C'est vrai que cette bande dessinée est assez remarquable. Pour vous, père Jean-Marc Fournier, vous pensez qu'il est important aussi de pouvoir éditer, de produire, pour transmettre quand même aux générations à venir bien la beauté de ce pèlerinage. C'est important, la transmission.
Mais la transmission, c'est non seulement important, mais c'est plus qu'important. Vous avez tradidi quadrice pistis, et j'ai transmis ce que j'ai reçu, donc... C'est vraiment l'ADN de l'apostolat. Et puis j'évoquais, à propos du WebPMI, le recours aux technologies modernes. C'est-à-dire qu'il faut savoir toucher la jeunesse avec des moyens auxquels elle a accès. Alors on parle de la BD, à quand les mangas, quoi? Parce que le vrai sujet est celui-là. Donc je lance un appel. Mais ce qui est certain, c'est qu'on comprend bien le message. Hein, c'est être en capacité de tirer de son trésor du neuf et de l'ancien, quoi. Donc on sait que le dépôt révélé, c'est à la mort du dernier apôtre. Donc l'affaire est entendu. Maintenant, tout l'art des pasteurs, c'est de rendre le message audible, quel que soit le temps et l'espace et la civilisation auquel ils s'adressent. Et c'est un vrai sujet, quoi. Non seulement un sujet, mais un challenge. On le voit, la réflexion ne cesse d'être sur le métier. Pour savoir comment on peut justement rendre audible aujourd'hui au XXIe siècle, mais jusqu'à la fin des temps, le message universel et d'amour du Christ.
Venir au pèlerinage militaire, c'est pour œuvrer pour la paix, c'est vivre aussi les sacrements. Ça, c'est assez propre au diocèse de l'armée que de pouvoir à Lourdes vivre le baptême ou la confirmation. Vous l'avez dit en première partie, c'est aussi se rencontrer entre frères d'armes pour d'autres pays. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur peut-être cette quatrième raison qui pousse aussi les militaires à participer à ce pèlerinage, c'est de marquer sa proximité avec les malades et les blessés. Vous accompagnez des blessés, des malades, qui sont-ils, enfin, quelle est leur histoire, qui s'occupe d'eux, pouvez-vous nous évoquer cette partie du pèlerinage?
Alors, je l'évoque d'autant plus librement, et je vous remercie d'avoir posé cette question, c'est pas simplement une formule rhétorique pour me laisser le temps de réfléchir, je vous assure, hein, que quand j'ai accepté, quand votre chef vous demande quelque chose, on a le bon grâce de plus soyer, donc quand l'évêque aux armées m'a demandé de devenir d'abord président, et maintenant d'abord directeur, et maintenant je suis vice-président, à vrai dire, c'est la même chose, c'est juste le titre qui a changé, donc vice-président, j'ai eu cette intuition qu'on pouvait justement réutiliser cette théologie du corps si chère à Saint Jean-Paul II, déjà évoquée. À savoir, vous avez un cœur, et le cœur, c'est véritablement la paix. Hein, on ne cesse de le dire, et elle ne cesse d'être attaquée, cette même paix. Donc il y a un cœur. Et pour qu'un cœur puisse fonctionner le moins mal possible, sinon le mieux, il faut qu'il soit oxygéné, et donc il faut deux poumons. Un poumon, c'est pas mal déjà, et je rejoins tous ceux qui n'en ont plus qu'un, mais deux, c'est quand même mieux. Et deux poumons, quels sont les deux poumons du pèlerinage militaire international? Ce sont toujours des militaires, mais vous avez les militaires valides, très bien, et leurs familles, et vous avez les blessés. Et de la même manière que la chrétienté, c'est le poumon occidental et le poumon oriental, et donc ne l'oublions pas, de la même manière, le PMI, c'est deux poumons, ce sont les camarades valides, qui défilent dans les rues de Lourdes, mais ils sont toujours précédés. Si vous êtes attentive, et je sais que vous l'êtes, madame, vous voyez que souvent, très de devant, ils sont précédés par leurs blessés, c'est-à-dire des gens qui étaient valides hier et qui aujourd'hui ont fait le sacrifice d'une partie d'eux-mêmes, que ce soit des blessures visibles, à vrai dire, ou des blessures invisibles. Hein, on parle beaucoup du PTSD, alors j'utilise l'acronyme anglais cette fois-ci. Donc les blessures psychiques, des blessures invisibles qui font des ravages encore aujourd'hui. Alors pour vous donner quelques chiffres, il faut savoir que cette année nous aurons à peu près 300 blessés. 300 blessés avec un nombre à peu près équivalent d'accompagnants ou d'accompagnateurs. Les accompagnateurs, c'est pour la plus grande partie la HNDA, c'est-à-dire l'Hospitalité Notre-Dame des Armées. Donc des gens qui donnent un peu de leur temps, du bénévolat pour accompagner, pour faire s'occuper physiquement des blessés et puis aussi une écoute active, parce que le blessé, il n'a pas simplement besoin qu'on s'occupe de son corps, mais aussi de son âme, et simplement de l'entendre. Et le fait de retrouver d'année en année des camarades avec qui ils ont combattu et qui, eux, sont encore valides, participe aussi à la démarche de guérison. Et puis vous avez, pour la France particulièrement, l'INI, qui est donc l'Institut National des Invalides, qui est le cœur, là pour le coup, enfin on va dire la portion centrale du dispositif, avec un certain nombre de blessés et de pensionnaires de l'INI qui sont amenés de Paris et qui viennent ici, à la fois pour la démarche de l'eau, on sait combien elle est importante, mais là puisque nous sommes vendredi, personne ne l'a oublié, nous sortons de la procession eucharistique, et c'est cette bénédiction, Jésus véritablement présent avec son corps, son âme, sa divinité et son humanité, qui, justement, est à l'origine d'un certain nombre de guérisons. Et quand Jésus touche « effata quod est ad aperire », c'est-à-dire, il touche les oreilles, et c'est ce qu'on reproduit dans le baptême, les oreilles et le nez, pour nous montrer qu'il a le pouvoir de guérir les âmes, il commence par guérir les corps. Hein, c'est pour les militaires ce qu'on appelle, et pour d'autres, c'est la pyramide de Maslow. Il faut commencer à nourrir ceux qui ont faim, à habiller ceux qui ont froid, et puis voilà, c'est exactement ça. Donc, nos militaires, par ceux qui peuvent vivre ici, sont justement dans un climat propice pour commencer l'œuvre de guérison. Et donc je poursuis sur ce qu'on met en place, les HIA, c'est-à-dire les hôpitaux d'instruction des armées, particulièrement Percy, fournissent des médecins et fournissent du personnel hospitalier, c'est-à-dire des infirmières, ou des infirmiers, mais des infirmières surtout, qui vont, comme le rythme de garde qu'ils peuvent avoir dans ces HIA, provenant de différents services, alors que ce soit de la médecine interne, que ce soit de la chir, que ce soit la chirurgie, que ce soit ou la cardio, viennent prendre des gardes, ils prennent des gardes, comme dans leur HIA, je l'ai déjà dit, et vraiment assurer une présence médicalisée auprès de ces blessés, pour leur permettre de vivre aussi, alors selon leur capacité, un vrai et beau pèlerinage.
Ils seront ce soir, on imagine, aux premières places de l'ouverture internationale qui aura lieu à Saint-Pie-X et Flamme Caouissin. Quels vont être encore les temps forts de ce pèlerinage pour nos amis auditeurs qui nous entendent et qui disent « Oui, moi j'ai envie de voir ce que c'est que le pèlerinage militaire international à Lourdes ».
Alors au niveau international, c'est vrai que la cérémonie d'ouverture internationale, c'est comme une mini ouverture des JO finalement, si on peut voir, avec cette dimension spirituelle tout de même. Et c'est un temps très très marquant qui fédère à la fois les croyants et les non-croyants qu'on amène. Comme disait le père Fournier tout à l'heure, on n'amène pas que des chrétiens. Et c'est vrai que là, c'est un moment très marquant où on accueille chaque délégation. Donc déjà, ça, c'est ce temps fort essentiel. Puis après, dimanche, en fait, on a la messe internationale qui est un élément essentiel aussi de ce pèlerinage où tout le monde se retrouve pour la Sainte Eucharistie. Et enfin, il y a demain matin, samedi, la messe des baptêmes, des sacrements d'initiation, mais c'est plus spécifiquement pour la France.
Est-ce qu'on peut justement, sur ce point, combien de personnes en fait vont recevoir le sacrement du baptême ou de la confirmation? Parce qu'on sent qu'il y a quand même en France un certain élan, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a quand même le pèlerinage de Pentecôte, là, de Chartres, qui a été, qui a rassemblé plus de 18 000, je crois, de ne pas me tromper dans le chiffre. Et on sent qu'il y a quand même un regain de spiritualité en France et peut-être ailleurs. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous le voyez également?
Je salue votre optimisme. Moi, je crois que, définitivement, il faut mettre deux courbes en parallèle, les juxtaposer, à la fois, effectivement, les conversions nombreuses ou les retours nombreux, et on n'a jamais eu autant de baptêmes d'adultes partout. Nous, pour donner des chiffres, là, il y aura 180 adultes qui vont être baptisés, en sachant que dans le diocèse aux armées, sa particularité, c'est que le soleil se couche jamais dessus, puisque partout où il y a des soldats, c'est le diocèse aux armées, donc c'est le monde entier, la France est partout. Donc, tout le monde ne vient pas à Lourdes. Moi, j'ai eu l'occasion à l'école militaire de baptiser, première communion, enfin, confirmation et première communion. J'ai déjà eu huit soldats qui ont reçu ces sacrements. De manière plus spécifique, c'est 180 baptêmes qui auront lieu. Et les confirmations, il y en a beaucoup plus parce que ceux qui ont été baptisés petits, justement, et ont échappé après, la confirmation, on va être de l'ordre de près de 400 confirmations. Mais ce que je voulais dire sur les deux courbes, c'est qu'on peut se réjouir, effectivement, qu'un certain nombre, pour différents facteurs, qui restent encore pour la plupart à être analysés, ça dénote simplement qu'on a maintenant atteint un effondrement tel du baptême des enfants qu'on est encore satisfait, merci mon Dieu, de pouvoir les rattraper un peu par la suite. Mais est-ce qu'il faut se réjouir à ce point-là ou continuer à prier et à œuvrer pour la conversion des cœurs? Je laisse à chacun la réponse judicieuse à apporter.
En tout cas, il faut venir prendre le pouls de ce qui se vit à Lourdes. Moi, je vous donne un conseil pour ces samedis, 14h, c'est le Festival International des Musiques Militaires. C'est parce que si vous voulez voir de l'uniforme rutilant et de la musique militaire, il faut venir. Anne Deslois, vous allez venir?
Alors, je ne sais pas si je viendrai, mais c'est sûr que je vais quand même venir un peu plus tard dédicacer la BD. Et je suis en train, ça me fait penser à un souvenir à l'époque où j'étais à l'espace mission qui est au bord du boulevard Rémi Sempé, à quelques mètres du sanctuaire. C'était toujours un moment, le défilé des chorales et des troupes là, qui passaient devant sur ce boulevard Rémi Sempé, avec toujours des tas de gens qui venaient des badauds, on va dire, qui venaient de chaque côté et qui souvent, bien sûr, applaudissaient et laissaient s'échapper quelques larmes pour dire qu'ils étaient touchés
par tous ces militaires qui œuvrent à travers le monde.
On imagine que les journalistes sont sur le pont ce week-end.
Comme d'habitude, comme tous les week-ends, David. Ah oui, à quelle heure la musique militaire?
14h samedi, et puis un programme également complet qu'on peut retrouver sur le site internet du diocèse aux armées ou sur le site internet également du sanctuaire de Lourdes, avec notamment la messe aussi internationale le dimanche matin, le revoir, enfin vraiment, ça
la
va être...
La procession mariale.
La procession mariale, on l'a oublié, c'est le thème en plus.
Voilà, ça c'est le thème de l'année, donc voilà, voir tous ces militaires aller au pied de la Vierge Marie à l'occasion de la dernière partie du triptyque, aller dire aux prêtres de bâtir une chapelle et d'y venir en procession. Voilà.
Alors c'est ça, donc vous venez samedi à 14h puis vous restez jusqu'à 21h parce qu'à 21h c'est la procession mariale.
Précisons la présence tout à fait extraordinaire de Mgr Gallagher qui nous vient de Rome pour présider ces différentes cérémonies.
Un lieu de... voilà, je pense que c'est un carrefour international, voilà, alors on l'a parlé, on a dit de fraternité, un carrefour de prière, un carrefour de paix, en tout cas, on la souhaite et on l'invoque autant que possible. Pour nous, l'heure de pointe, c'est terminé, on se retrouve la prochaine fois, si vous êtes d'accord.
Je viendrai.
Bon, et vous aussi?
Moi aussi, là, on a eu vraiment des invités qui nous donnent le goût, enfin, je trouve qu'ils nous font voir... les armées d'une autre façon. Bon pèlerinage aussi à vous.
Merci, à la semaine prochaine.
L'heure de pointe, David Torchalla.